Donc, c'est un très grand plaisir pour Bordeaux et pour la librairie Mola d'accueillir ce soir Patrick Cabanel. Donc, vous soyez un inconnu dans cette bonne ville, mais parce que vous venez nous présenter un ouvrage qui est tout à fait extraordinaire. Je vais expliquer pourquoi dans un instant. Alors, quelques mots au cas où, parmi vous, il y aurait des personnes qui ne connaîtraient pas Patrick Cabanel. Patrick Cabanel est professeur d'histoire à l'université du Mirail, au terme d'une carrière universitaire... Au cours.
Merci.
Pardonnez-moi. Au cours.
C'est vrai que la droite est en partie. On va partir plus tôt.
Au cours d'une carrière universitaire qui répond à tous les canons du genre et que je ne détaillerai pas. Mais si vous voulez plus précisément, je dirais que moi, ce qui me frappe dans justement cette très brillante carrière de Patrick Cabanel, c'est la diversité. La diversité des thèmes, la diversité des centres d'intérêt qui sont les siens. Non seulement il s'est imposé sur le plan universitaire comme étant un spécialiste de l'histoire du protestantisme contemporain, mais autour de ce thème-là et à travers ce thème-là, il a déroulé un certain nombre d'autres fils, alors des fils qui concernent l'histoire de l'éducation, des fils qui concernent l'histoire de la laïcité. Patrick Cabanel se préoccupe également beaucoup de savoir comment se constituent les lieux de mémoire et comment ces lieux de mémoire concourent à la formation de la nation ou à la perpétuation et à l'évolution de la nation. Et puis je dirais qu'au-delà de cette dimension historique, Patrick Cabanel alors a une démarche qui est tout à fait originale et qui va nous renvoyer immédiatement à cet ouvrage depuis sa thèse et jusqu'à aujourd'hui. Il y a un fil conducteur, et d'ailleurs dans la biographie autorisée que vous avez rédigée vous-même, il y a un fil conducteur qui est le fil conducteur de la question des minorités. Comment une minorité peut-elle se définir? Comment peut-elle exister? Comment peut-elle coexister, voire résister et être combattue par une majorité? Et comment s'établit dans un pays aussi complexe que la France, comment s'établit le rapport minorité-majorité? Et ce fil conducteur, évidemment, c'est un fil conducteur qui l'a conduit nécessairement à s'intéresser à l'autre minorité confessionnelle que la minorité protestante, c'est-à-dire la minorité juive en France, et le thème des rapports juifs-protestants est un thème aussi qui devient un thème essentiel, un thème récurrent dans cette œuvre prolixe. Donc un homme d'histoire, un homme qui a des centres d'intérêt extrêmement variés. Mais Patrick Cabanel a également, à mes yeux, une autre qualité, c'est un homme de mémoire, c'est un homme de terroir, c'est un homme de racines, et à travers son œuvre court aussi ce souci de conjuguer la mémoire et l'histoire, ce qui n'est pas forcément quelque chose de facile en soi, je dirais, intellectuellement, et ce qui n'est pas non plus quelque chose de facile, je dirais, en tant que citoyen, en tant que partie prenante de la société française, parce que vous savez qu'à l'heure actuelle, hein, ces deux concepts, ces deux idées, que ce soit celle de mémoire ou que celle d'histoire, sont largement questionnées. Alors l'ouvrage pour lequel Patrick Cabanel est parmi nous ce soir, c'est un ouvrage imposant dans tous les sens du terme, hein, 1500 pages, une somme. On dit, je dirais, tous les autres historiens qui s'intéressent un peu à l'histoire religieuse, on vous l'a certainement dit, mais moi je dirais une Bible. Hein, une Bible, le format, le papier, oui, l'impression, hein, je ne sais pas si ça a été calculé, peut-être, mais bon, l'ouvrage prend cette apparence-là, donc 1500 pages très denses, 1500 pages qui comprennent, bien sûr, au-delà du texte proprement dit, des notes, une imposante bibliographie, des index de personnes, des index relatifs au lieu, donc un ouvrage qui répond à tous les canons universitaires, mais un ouvrage qui également s'éloigne, et Patrick Cabanel nous expliquera probablement pourquoi, un ouvrage qui s'éloigne aussi de ces canons universitaires. Alors, le propos est à l'évidence, hein, histoire des protestants en France d'ailleurs, et non pas histoire des protestants de France, hein, on pourra peut-être se demander pourquoi. L'ouvrage est construit de façon chronologique, hein, du XVIe siècle au XXIe siècle, avec un parfait équilibre, si vous voulez, dans la répartition chronologique, et pourtant, tout n'est pas dit sur l'histoire du protestantisme. Patrick Cabanel a procédé à un certain nombre de choix. Hein, je vais lui demander de s'expliquer sur ces choix. Mais, si vous voulez, il y a là une sorte de panorama qui est absolument passionnant. Alors, le premier réflexe, c'est de dire à Patrick Cabanel qu'on est largement admiratif de cette production, de cette ultime production qui s'ajoute à une bibliographie déjà très développée. Et la question quand même qui vient d'abord à l'esprit, qui sera ma première question, pourquoi cet ouvrage maintenant dans votre parcours? Est-ce que ça, c'est un projet que vous avez caressé de longue date? Est-ce que ça correspond à des objectifs scientifiques plus précis, plus immédiats? Quelle est la genèse finalement de ce livre?
D'abord, merci à Séverine pour cette biographie non autorisée au sens technique, mais que j'ai trouvé personnellement tout à fait flatteuse et très confortable à entendre, hein, pour son héros ou son sujet ou son objet. Je salue les Bordelais. J'étais il y a 3 semaines, je crois, ou 1 mois, dans votre ville, au musée d'Aquitaine, pour une conférence sur Les Justes, qui est l'avant-dernier livre, hein, que j'ai publié il y a quelques mois. J'avais promis lors de cette conférence d'essayer de ne rien dire des justes protestants. Et ce soir, j'essaierai de ne rien dire des protestants justes, hein, donc de ne pas parler des années 40. Voilà, merci Séverine pour cet exercice auquel vous vous livrez avec beaucoup de générosité. Il m'est arrivé de faire la même chose à Ombre Blanche, à Toulouse. Je pense au Pierre Bayle d'Hubert Bost, au Dreyfus de Vincent Duclerc. C'est pour celui qui présente, il faut beaucoup de générosité, parce que c'est un rôle ingrat que de mettre en valeur l'auteur. Hein. Séverine est aussi une auteure, vous le savez, et notamment d'un superbe... à tous égards, y compris physiquement le livre « Les protestants à Bordeaux ». J'ai des lacunes dans mon livre, notamment dans les histoires régionales, j'y reviens pas, je réponds à la genèse de ce livre. Je citerai l'un de nos collègues, hein, André Encrevet, qui a été pendant, je vais pas le dire, lui il est au terme de sa carrière parce qu'il est retraité maintenant, pendant 50 ans, non, je le dis un peu, pendant 30 ans, André Encrevet a été le spécialiste de l'histoire du protestantisme français contemporain. Et André m'a toujours dit « Je n'aurais jamais pu écrire... » Ah oui, on m'a dit qu'il ne fallait pas taper sur la table. Il fallait parler à la bordelaise, très classe. Et pas à la nîmoise, d'où je viens. André m'a dit que j'aurais jamais pu écrire une histoire des protestants à l'époque moderne, à l'époque de Louis XIV, par exemple, parce que j'aurais pas pu être objectif. Trop de souffrances, trop de malheurs, trop de tribulations. Bon, moi, j'ai pas pensé à ce genre de choses. J'ai pas eu peur d'écrire sur Saint-Barthélemy, sur la révocation, avec évidemment la tentative d'être objectif. Même si, Séverine l'a très bien dit, la mémoire et l'histoire, elles sont souvent... vous savez, l'historien, c'est comme le roi. Il a 2 corps. Hein. Un corps physique que remplit une mémoire, en l'occurrence la mémoire huguenote, et puis un corps neutre, scientifique, qui devrait regarder avec une égale distance et éventuellement une égale empathie, aussi bien les bourreaux que les victimes ou que les spectateurs. Voilà, donc il faut tenir cette distance. Je ne suis pas toujours certain de l'avoir tenue, évidemment. Je me suis fait une promesse et apparemment ça a marché puisqu'on m'a déjà fait le reproche. On m'a dit, Patrick, tu as été trop rapide sur la guerre des Camisards. Ça vous dit quelque chose, la guerre des Camisards? Mais je m'étais engagé devant moi-même à ne pas résumer le protestantisme français ni aux Cévennes. Je n'ai pas oublié Sainte-Foy-la-Grande, Bordeaux, etc., ni à la guerre des Camisards. Bon, il y a une série de choix à faire. Alors, d'un mot, la genèse de ce livre, en fait, est une commande, Séverine. C'est une commande, je n'y aurais jamais pensé tout seul. Je suis allé voir Fayard, qui est, pour un historien, la grande maison, Fayard, une des grandes maisons d'histoire, pour leur vendre, en quelque sorte, un projet de livre que j'ai toujours l'intention de faire, un projet de livre, écoutez bien, sur l'exil des congrégations religieuses catholiques victimes de la violence de la République laïque, avec les lois de 1901-1904. Parce qu'elles sont parties, ces congrégations religieuses, en exil dans le monde entier, un exil bien plus large que celui des Huguenots. Elles sont allées spécialement dans le Levant de l'époque, c'est-à-dire, vous savez, Jordanie, Syrie, Israël d'aujourd'hui. Elles sont allées massivement au Pays Basque espagnol, Hernani. Les Jésuites de Bordeaux étaient à Hernani au Pays Basque. Hein. Elles sont allées dans les Baléares, elles sont allées à Jersey, en Angleterre du Sud, en Belgique, au Brésil, au Chili, massivement aux États-Unis, au Québec, en Chine, etc. Et on m'a écouté chez Fayard exposer pendant une heure ce projet. Et puis le grand patron, Denis Maraval, m'a dit « C'est intéressant votre projet, un peu pointu pour un premier livre chez nous. Cher ami, il n'y a rien sur les protestants d'un peu synthétique depuis le Léonard, Émile Guillaume Léonard, histoire générale du protestantisme en 3 volumes paru en 1961. La différence entre Léonard et moi, il y en a d'autres. Hein. La différence, c'est que Léonard, c'est une histoire mondiale de tous les protestantismes. Moi, déjà, comme je ne lis pas l'allemand, le protestantisme luthérien m'a été un peu fermé d'accès. Et donc, Fayard m'a dit, faites donc un livre de synthèse sur les protestants, sur le succès, c'était un type habile, hein, Maraval, sur le succès du livre sur les protestants, nous ferons derrière ce livre plus exigeant pour un public plus aigu, plus pointu, etc. Donc, un public moins nombreux. Et je me suis laissé immédiatement séduire, parce qu'en fait, André Encrevé, lui, ne voulait pas l'écrire. Moi, je n'osais pas m'avouer que j'avais envie d'écrire depuis toujours ce livre. Et depuis toujours, j'avais envie de revisiter, l'exil de Calvin, le temps des bûchers, la Saint-Barthélemy. J'avais envie d'y entrer sans me l'autoriser, parce que j'ai pas le droit d'entrer la Saint-Barthélemy. Vous savez, chez les universitaires, c'est très sectionné, c'est très... Moi, je suis contemporanéiste. C'est-à-dire que normalement, je n'ai le droit d'écrire que... Enfin, on m'a pas envoyé les gendarmes. Mais je n'ai le droit d'écrire que sur le 19e et le 20e siècle. J'ai pas le droit d'aller sur le 18e, ou sur le 17e, ou sur le 16e. Et quel est le risque, c'est que les sixiémistes m'attendent au tournant pour me massacrer. Bon, pour l'instant, ils ont été gentils. Hein. Le seul qui m'a massacré, c'est un spécialiste d'époque contemporaine, dont je ne donnerai pas le nom. Voilà. Donc, je n'osais pas me l'avouer que j'avais envie de le faire. J'avais envie de reparcourir la descente aux enfers, entre guillemets, du protestantisme dans les années 1660, 1680, avant la révocation. L'asphyxie méthodique. Ce qui s'est fait aux protestants et qui, plus vite, plus violemment, s'est fait aux juifs dans l'Allemagne nazie. Comment, avant de les tuer, on les tue socialement, méthodiquement, on les sort des métiers où il y a de l'influence sur le public. On leur interdit d'être sage-femme, avocat, professeur, médecin, tout ce que vous voudrez. Voilà ce que j'ai fait, et ça donne ce livre qui est gros et qui a pourtant plein de lacunes, je le sais.
Alors, le paradoxe, vous aimez bien, d'une manière générale, manier le paradoxe, et ça commence à la première phrase, où vous écrivez ceci, l'histoire des protestants en France est celle d'un échec, déjà 1500 pages sur un échec quand même, et celle d'un échec et d'une durée. Hein. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que vous retenez ou les arguments que vous avancez pour dire en quoi on peut parler d'échec du protestantisme. Est-ce que y a eu des moments réellement, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ces moments, est-ce qu'il y a eu des moments en France où on a pu craindre que la France devienne protestante ?
Oui, il y a deux moments très, très séparés dans la distance. Dans les années, je vais dire, dans les années 1530, au tout début des années 1560, hein, donc vraiment au début, on a pu penser, il y avait des exemples politiques voisins, hein, dans ce qui est aujourd'hui le monde germanique, le monde suisse, l'Angleterre, etc. On a pu craindre qu'une collusion de séduction, de véritable conversion, des élites en particulier, de violence aussi. Les protestants étaient aussi aussi un groupe, une minorité armée longtemps. On a pu croire qu'ils allaient être capables de renverser la monarchie chrétienne ou catholique et imposer une sorte de révolution politico-religieuse, comme le donnait l'exemple de cours ou de cités helvétiques ou germaniques. Et puis, bon, ça c'est très connu, hein, et ça a été brisé évidemment par la violence d'abord d'État et puis par la violence des foules en 1562. Et puis l'autre exemple qui est beaucoup plus proche de nous, qui est très fantasmatique, hein, c'est cette peur qu'ont eu un certain nombre de milieux catholiques, hein, catholiques réactionnaires, anti-laïques, anti-républicains, dans les années 1879. À la fin du XIXe siècle, la peur d'une protestantisation larvée, secrète, mais efficace, par la voie de la laïcité. Comme si la laïcité n'était que l'habillage d'une revanche historique des protestants. Et un signal, c'est vrai que c'était un peu dangereux de la part des uns et des autres. Jules Ferry, devenu, c'était en 1879, vous savez, la République des Républicains. Bon, on le dit toujours, il faut dans une conférence, je dirais, réutiliser les clichés, c'est rassurant. Hein. Alors c'est un vrai cliché. Le premier ministère de Jules Grévy, le premier ministère vraiment républicain, lorsque le MacMahon, etc., s'en va. Nous sommes en 1879. Il y a 9 ministres un jour, 10 le lendemain, donc je prends les 10. Et sur les 10 ministres de ce premier ministère, moins nombreux qu'aujourd'hui, nos ministères, il y a 5 protestants. Ça fait beaucoup. Et évidemment, ça choque. Et ça passe pas inaperçu. En plus, sur les 5, il faut bien le dire, il y en a un seul qui soit un pur Français de souche. Les autres, il y en a un qui a une mère anglaise, c'est Jory Guibéry, le basque. Il y en a deux qui viennent du refuge huguenot. Hein. Il y en a un, d'ailleurs, le président du Conseil des ministres, c'est Waddington, hein, dont le nom dit bien que ce n'est pas un Français de souche. J'utilise à dessein l'expression agressive de Français de souche. Hein. Il y a Royer, qui est un Genevois d'origine huguenote. Dans tout ça, et alors il y a ça, et puis quelques mois après, on inaugure à Paris la faculté de théologie protestante de Paris, qui est en fait le transvasement de celle de Strasbourg qui est devenue allemande. Et là, Jules Ferry décide, ce qui est un peu imprudent de sa part, il décide de venir à la cérémonie d'inauguration. Et donc, il se retrouve seul, il est lui-même l'époux d'une protestante alsacienne. Il se retrouve seul, environné de pasteurs, de protestants, bien sûr, et à un moment, sans prévenir, c'est pas chic de sa part, sans prévenir, le pasteur Ariste Viguier, dont le nom n'était pas venu jusqu'à vous, hein, c'est normal, qui est le pasteur du Grand Temple de Nîmes, dit « Mes frères, nous allons prier pour remercier le Seigneur ». Et là, la presse dit, un instant interdit, le ministre finalement se lève comme les autres et écoute la prière. Alors le lendemain, la presse catholique se déchaîne en disant, voyez, la collusion du protestantisme, la République laïque. Et vous le savez, là, on est tôt, 1879. Après, lorsque Drummond publie La France juive, le fameux pamphlet antisémite dans La France juive, il y a tout un chapitre sur les protestants, contre les protestants, pour montrer qu'en vérité, vous savez tout ça, Maurras, les 4 États confédérés, hein, les protestants, les juifs, les francs-maçons, les métèques travaillent ensemble à prendre une revanche destinée à décatholiciser. Voilà. Et puis, dernière chose, dans les années 1970, 1980, vous ne saviez pas qu'il y avait eu un complot protestant, il vous a échappé, mais un certain nombre de gens, à commencer par Mgr Lefebvre, par exemple, ont accusé globalement l'esprit des temps de tendre à une protestantisation douce, invisible, d'autant plus redoutable et efficace de la France. Alors, Mgr Lefebvre le dénonçait. Un journaliste du Figaro, je crois, Robert Beauvais, ça vous dit quelque chose ? Robert Beauvais avait épousé une protestante, il a divorcé, il a ensuite réglé des comptes avec la communauté. Il a écrit un livre très brillant, intitulé « Nous serons tous des protestants », où il accuse, j'ai trouvé ça délicieux, il accuse les Cévennes d'être l'équivalent de... Enfin, il dit qu'il y a un sionisme huguenot. Vous savez, les Suisses, les Néerlandais, les Allemands, ils viennent sur la terre de Sion, ce sont les Cévennes, le musée du désert. Nous serons tous des protestants de Robert Beauvais. Et puis, pour s'en féliciter, un journaliste protestant, un des grands noms, Alain Duhamel. Hein. Alain Duhamel a écrit, c'était dans Réforme, je crois, ouais, que la France se protestantisait tout en douceur dans ses institutions, dans son esprit. Pour Mgr Lefebvre, Vatican II, c'est une forme de protestantisation intérieure du catholicisme. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des moments où, de manière très fantasmée, hein, le seul moment où on a pu craindre réellement un passage, c'est quelque part entre 1540, début des années 1560, quand, autour de François Ier, à commencer par sa sœur, il y a vraiment des princes qui sont prêts à passer. Hein. Et bon, Henri VIII, il n'a rien fait d'autre. Hein. Donc là, il y a eu un risque, mais qui a été très vite conjuré.
Alors, c'est intéressant quand même, parce que ça veut dire que dans l'inconscient collectif, un des premiers items qui est attaché au protestantisme, c'est ce risque, finalement. Le protestantisme serait porteur de risque. Il y a une deuxième caractéristique que vous avez voulu, personnellement, je le trouve, lever dans ce livre, et vous en disiez un mot à l'instant. Vous n'avez pas voulu donner dans votre histoire des protestants ce qu'on peut appeler une vision doloriste. C'est-à-dire que vous n'avez pas succombé justement à ce qui était une tendance à une certaine époque qui consiste à s'appesantir sur les malheurs qui ont été réels et qu'il n'est pas question de mésestimer, sur les malheurs de la religion majoritaire. Vous rappelez ces malheurs, mais vous ne les valorisez pas. Et alors, ça vous amène, et peut-être que là on pourrait développer un peu plus les choses, ça vous amène à relire ces drames qui ont été... Alors, vous relisez peu les guerres de religion, et je crois que c'est un choix délibéré, vous pouvez peut-être nous dire pourquoi. Vous relisez davantage, par contre, la révocation de l'édit de Nantes. Là-dessus, quelle est la lecture, finalement, que vous donnez aujourd'hui de la révocation? Qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau sur la révocation?
Alors, pas de vision doloriste, c'est vrai. Il y a un livre qui, dans certains milieux, a été très discuté, a aimé ou détesté d'Esser Ben Bassa, hein, sur le rapport des Juifs à la souffrance, sur la souffrance comme identité, sur ce qui reste à une minorité religieuse quand elle a cessé de pratiquer, par exemple. Quand les protestants ne vont plus au temple, ça arrive, hein, où vont-ils? Au musée du désert, hein, vous connaissez un peu. Ils vont dans les musées, ils lisent des livres d'histoire. J'ai tenté de me défaire, je ne suis pas sûr, c'est gentil, c'est vrai, de me dire que ce n'est pas doloriste, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas par moment une sorte d'âcre plaisir du dolorisme. Les protestants comme les juifs, André Encrevé, pour le citer à nouveau, disait, et je crois que ce n'est pas faux, que jusqu'à 1940, hein, la minorité qui a le plus souffert en France, ce ne sont pas les juifs, mais jusqu'à 40, nous sommes d'accord, ce sont les protestants. Et ils se sont construits une identité plus que doloriste, une identité véritablement martyrologique, victimaire, autour de la Saint-Barthélemy, de la révocation. Ils ont d'ailleurs relu, je ne vais pas insister, cette identité, je dirais, au filtre de ce que dit des tribulations du peuple d'Israël, l'Ancien Testament que les protestants ont lu jusqu'à saturation à l'époque moderne. Mais effectivement, à côté de ce dolorisme qui, je crois, a vraiment été constitutif de leur identité. Hein, et chaque siècle a rajouté une couche, hein, jusqu'à l'affaire Calas, si vous voulez, jusqu'aux Galériens pour la foi, jusqu'à Marie Durand. Mais en même temps, Marie Durand, c'est une femme, c'est comme Dreyfus. Hein, Marie Durand, elle a triomphé de ses geôliers. Hein, elle est sortie libre de sa prison après, vous le savez, 38 ans de prison, une prison de conscience, hein, en 1768. Et donc, ce dolorisme qui existe, il s'est souvent, et ça c'est très minoritaire comme trait, hein, il s'est souvent converti, il faut bien le dire, je le dis publiquement, dans une forme de fierté ou même d'orgueil. Hein. J'aime bien dire que les protestants sont orgueilleux, ils n'aiment pas, hein. Ils n'aiment pas ça du tout. Vous ne pouvez pas le dire des juifs, parce que sinon on vous accuse de reprendre le peuple sur de lui et dominateur, etc. Mais les minorités, surtout quand elles ont été, je dirais, systématiquement persécutées, traquées, cherchées, atteintes, brisées, privées d'histoire, privées de nom, hein. On a, j'y insistais dans le livre, on a pendant, y compris par arrêté royal, interdit les protestants de s'appeler comme ils voulaient s'appeler. Hein. Et le sommet, c'est presque du surréalisme totalitaire. C'est le moment où, vous savez, qu'ils devaient s'appeler officiellement les prétendus réformés. Hein. Ils n'avaient pas le droit de se dire réformés. L'Église, la vraie, la catholique, n'avait pas à être réformée. Et donc on les appelait les prétendus réformés, et souvent, par raccourci, c'est joli, on les appelait les prétendus. Les prétendus, c'était donc les protestants. Dans la privation qui va jusqu'au nom. Hein. Mais d'avoir survécu à ça, ils en ont tiré, je lis dans la première phrase, c'est un échec, mais c'est une durée aussi. Ils en ont tiré une forme de fierté et d'orgueil, y compris à partir de la Révolution française, l'orgueil, qui n'ont jamais perdu jusqu'à nos jours quasiment, d'avoir été dans le sens de l'histoire, d'avoir été des martyrs en quelque sorte du progrès. Hein. Et donc leur identité, elle est à la fois doloriste et orgueilleuse, et ça suffirait presque à définir l'identité de bien des minorités. Hein. Alors pour revenir à la question de la révocation c'est, pour les protestants français, c'est la catastrophe intégrale, absolue. Bien plus que la Saint-Barthélemy n'avait pas mis fin au protestantisme en France. La révocation, officiellement, aux yeux notamment de ses auteurs, a mis fin pour près d'un siècle au protestantisme en France. C'est une catastrophe comme il en existe dans l'histoire des minorités. C'est une catastrophe au sens où les Grecs de l'ex-Turquie, les ex-Grecs de Turquie disent la catastrophe pour parler de ce qui leur est arrivé. C'est la fin finale d'une minorité, elle a tout perdu, et puis elle a survécu à ça. Et la révocation de l'île de Nantes, j'en dirais donc trois choses. Un, c'est une catastrophe intégrale, j'y reviens pas. Deux, mais j'y insiste pas ici, ça a été de manière tout à fait paradoxale, mais ça c'est pas moi qui aime le paradoxe, c'est l'histoire qu'il y en a, et une ironie de l'histoire. Ça a été une grande chance, sans doute pour l'Europe, l'Europe comme communauté d'esprit, hein, comme République des Lettres. C'est, vous le savez, la République des Lettres, la grande revue Les Nouvelles de la République des Lettres, c'est une revue fondée par un réfugié huguenot, Pierre Bayle, ou Bell, réfugié à Rotterdam. Et, paradoxe toujours, la révocation a été une chance unique, extraordinaire, pour la langue française. Et une chance que la langue française a retrouvé une deuxième fois dans son histoire, et je retrouve mes congrégations en exil. En 1901-1904, lorsque des milliers de religieuses et de religieux sont partis en exil, dans leur bagage, ils n'avaient rien d'autre que la langue française. Et les huguenots et la culture française, et qui était encore très prestigieuse. Et lorsque les huguenots sont partis en 1585 à Genève, à Lausanne, à Rotterdam, Serdam, La Haye, Copenhague, Fredericia, Stockholm, Moscou, Saint-Pétersbourg, etc., etc., Londres, Dublin, Édimbourg, Guyane, l'actuelle Guyane, l'actuelle Afrique du Sud, les actuels États-Unis, dans leur bagage, ils n'avaient rien pu emporter parce qu'il était interdit d'émigrer. Hein. Dans leur bagage, ils n'avaient qu'une chose aussi, une chose immatérielle, mais tellement trébuchante dans ses conséquences, la langue, la culture française. Et à deux reprises dans l'histoire de la France, ce pays qui n'avait pas voulu du protestantisme, qui n'a plus voulu, c'est moins grave, c'est pas la même échelle des congrégations religieuses au début du XXe siècle, à deux reprises, notre pays a vu se répandre dans le monde des serviteurs gratuits de la langue française, qui ont donné un essor mondial à notre langue, aujourd'hui perdue. Et puis, troisième chose, et j'en termine là, je fais des réponses trop longues, je le sais bien, la révocation, c'est une idée qui a été avancée, notamment par Philippe Joutard, un peu provocatrice, ne le prenez pas mal, hein. C'est l'idée que la révocation a finalement peut-être sauvé le protestantisme français. La violence, le coup de violence a été tellement dur que, bien sûr, ça a été un coup d'arrêt, mais en même temps, c'est un coup d'arrêt à l'érosion des effectifs protestantisme qui n'avait plus pris fin depuis les années 1560. Hein. On était à 12% de protestants en 1562, janvier 1562, 12% à peu près de protestants. On était à 6% à la fin du XVIe siècle lorsqu'est signé l'édit de Nantes. On n'est plus qu'à 4% lorsqu'est signée la révocation. Ça veut dire que l'édit de Nantes n'a pas été capable de protéger les protestants et n'a pas été capable d'enrayer cette érosion douce, cette pente vers la fin qui fait qu'on passe de 6 à 4%. Après, on tombe à 2% parce qu'il y a des gens qui se convertissent définitivement et il y a en gros 200 000 protestants, un peu moins, qui partent à jamais en exil le refuge huguenot. Mais ceux qui restent là, ces 2%-là, ils n'ont plus jamais été atteints. On n'a plus jamais pu mordre sur cette minorité qui avait connu l'effondrement total de 85, mais qui a trouvé dans cet effondrement total, contre toute attente de Louis XIV, qui a trouvé là, je dirais, le socle qui s'est avéré inoxydable jusqu'à ce que l'arrivée des évangéliques, depuis 30 ans ou 40 ans, fasse lui réaugmenter ce pourcentage, puisqu'on est aujourd'hui entre 3 et 4%. Mais ce 2% de 85, la révocation a été une sorte de baptême, si vous voulez, qui fait que après ils n'ont plus été accessibles à quelque forme que ce soit de répression. Et pourtant, la répression a donné tout ce qu'elle pouvait dans sa panoplie, encore au XVIIIe siècle.
Alors, vous venez de parler avec passion, vous parlez toujours avec passion.
Ça, c'est mais, Nîmes, hein, c'est Nîmes.
Mais de la révocation, mais moi, ce que je veux dire au public et à nos amis qui sont là, c'est que les pages et les chapitres que vous consacrez en particulier au refuge m'apparaissent comme étant parmi les meilleurs, hein, je le dis très clairement, les meilleurs de l'ouvrage. J'ai lu avec intérêt tout ce qui concerne le XVIe siècle, mais je ne suis pas moderniste, ce sont des terres que je connais mal. Et si scientifiquement, j'y ai pris un grand intérêt. Par contre, j'ai trouvé effectivement ces pages sur le refuge, ces trois chapitres, deux chapitres et demi sur le refuge, absolument, absolument admirables. Alors, autre question. Alors, quel est maintenant, sur la durée, l'apport des protestants à la France ? Rabaut Saint-Étienne, et c'est une phrase célèbre, disait que les protestants voulaient être les instituteurs de la nation. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont rempli ce rôle ?
Ah, question immodeste.
Je réponds. Moi, je peux vous la poser.
Je réponds. La formule de Rabaut Saint-Étienne est absolument immodeste. Elle est dangereuse politiquement, mais il a vraiment écrit. Hein. Il a écrit, d'ailleurs, je vous le signale, en 1788, quelques mois auparavant, Louis XVI venait d'accorder aux protestants l'édit qu'il ne faut pas appeler un édit de tolérance parce qu'il est tout sauf tolérant. La preuve, il interdit le culte public aux protestants. Hein. Mais c'est un édit qui leur rend une existence officielle et un état civil. Hein. Et cet édit de 1787, qui n'a vécu que deux ans, bien sûr, la Révolution a tout emporté, cet édit a beaucoup déçu les protestants. Et Rabaut Saint-Étienne, qui était son père, a écrit une lettre magnifique de 10 pages, précisément aux protestants de Bordeaux, qui étaient mécontents, inquiets, pour leur expliquer que c'était un demi-pas, mais qu'il fallait s'en satisfaire. Et c'est là qu'il dit, il a prévu la Révolution en 88, il dit, le mouvement des esprits en ce moment est très fort, des choses nouvelles se préparent, et nous sommes, il dit, nous les protestants, nous sommes les mieux placés pour accompagner l'entrée de la France dans une ère nouvelle, il ne sait pas encore que la Révolution va éclater, parce que nous allons être les instituteurs de la nation. C'est totalement immodeste, c'est pas totalement faux. Alors, je vais essayer maintenant de prendre la mesure exacte. Je rappelle que les protestants, à l'époque, sous la Révolution, sous Jules Ferry, sous François Mitterrand, etc., ils ne sont jamais que 2%. Et donc, surtout, lorsqu'on est dans le suffrage censitaire, sur la Monarchie de Juillet, où ne votent et ne sont électeurs et éligibles que les plus riches, en fait, les 2% de protestants, ils représentent bien plus que 2% du corps électoral, parce que je peux le dire, surtout à Bordeaux, les protestants, excusez-moi, j'adore le dire, les protestants, ils sont pas qu'orgueux, ils sont riches, vous le savez. Ils sont cultivés, ils sont libéraux, ils sont instruits, ils sont modernes, et ils sont riches. Ils sont, encore aujourd'hui, il y a des statistiques faites par des sociologues, Pierre Bréchon, qui a interrogé à la sortie des temples dans les années 90, dans la vallée du Rhône, il a interrogé les protestants. Et il s'est aperçu que les protestants sont en moyenne plus souvent propriétaires de leurs bâtiments, de leurs logements, que le reste des Français. Ils ont leur diplôme le plus élevé est plus élevé que le diplôme le plus élevé de la moyenne des Français, et ils ont un vote, c'est normal, ils ont un vote, je dirais, plus centriste. Ils sont beaucoup moins nombreux à voter Front National ou à voter communiste. Ils sont dans le vote socialiste écolo de la bonne bourgeoisie. Bon, je sais qu'il y a aussi une bourgeoisie qui vote UMP, je suis bien d'accord, mais voilà. Bon, c'est le côté protestant, il y a toujours cet ancrage à gauche, et donc ceci dit, une fois que le suffrage n'est plus censitaire et qu'on est en suffrage universel, comment imaginer que 2% de la population puisse infléchir la politique d'une grande démocratie moderne, et de surcroît d'une démocratie à ce point marquée historiquement par le catholicisme ? Eh bien, c'est déjà vrai au XVIIe, et je vais en rester sur l'époque contemporaine, là, pour le coup. Hein. C'est vrai de la Révolution, et c'est spécialement vrai de la République laïque, hein, des années 1880. Et puis je veux dire aussi un mot de la République gaullienne, pour ne pas parler de Mitterrand. Ces 2% de protestants français, ils ont pesé tout au long de l'histoire beaucoup plus que leurs statistiques propres. Non pas qu'ils soient... Bon, ok, il y a plus d'élite chez les protestants que dans, les Français moyens. Voilà. Je peux le dire, ça. Hein. J'ai envie de le dire aussi. Je sais que c'est toujours dangereux de dire ça, mais en France, la minorité juive et la minorité protestante, elles ont dégagé, elles continuent à dégager des élites. Et pas seulement de la banque ou de l'automobile. Hein. Pas seulement Peugeot, pas seulement Hermès, pas seulement Pathé Gaumont, pas seulement le pétrole Schlumberger. Elles, pour des raisons que je pourrais expliquer longuement, mais que je n'ai pas expliqué, le culte du livre, la revanche sociale, etc., elles ont des élites scientifiques, technologiques, artisanales, intellectuelles, artistiques, mais aussi, bien sûr, politiques, industrielles, tout ce que vous voudrez. Et donc, elles pèsent toujours plus. Et surtout, parce que malgré tout, ça ne fera pas une majorité. Mais il y a des moments dans l'histoire de France, je vais en donner deux exemples, donc, hein, si, Jules Ferry et vous verrez pourquoi de Gaulle. Il y a des moments où l'un des drames de la France, qui aurait pu être bien plus grave que ce que ça a été finalement, surtout si vous regardez l'histoire de l'Espagne ou l'histoire du Portugal à certains moments, l'un des drames de ces pays catholiques, c'est qu'ils ont tous essayé de sortir du catholicisme. Et la tentation de sortir du catholicisme, ça peut être une tentation de sortie violente, avec le risque d'un huis clos, d'un face-à-face, entre une France noire, la France noire c'est la France cléricale, hein, et puis une France rouge ou bleue, comme vous voulez, avec le risque de guerre civile. Regardez ce qu'a été l'année 1793, regardez ce qu'a été à Paris l'année 1871. La commune Versailles, c'est vraiment la guerre civile de deux France. Hein. Regardez ce que, par moment, commençait à être, je ne sais pas, la France de 44. Hein, bon. Et puis, dans ce huis clos terrible entre des catholiques cléricaux et des catholiques d'origine, mais sortis du catholicisme et devenus d'autant plus anticléricaux. Rappelons qu'Émile Combes, le bourreau d'un certain catholicisme, est un ancien séminariste. Hein. Ça, c'est une histoire totalement catholique. Hein. Renan, le bourreau intellectuel du catholicisme, est un ancien séminariste. Bien. Et justement, pour éviter ce huis clos, il y a des moments où la France a eu besoin, ou disons qu'elle a eu à sa disposition, ça a été sa chance historique, des minorités qui étaient à la jointure. Les protestants, d'ailleurs, n'étaient pas seuls. Hein. Ils avaient avec eux, effectivement, les francs-maçons, effectivement, ou une partie des francs-maçons, effectivement, les juifs. Mais ceux qui pesaient le plus, à tous égards, c'était les protestants. Et les protestants, sous Jules Ferry, ils ont joué un rôle essentiel. Ça a duré 10 ans. Après, la France n'a plus besoin d'eux, et donc ils sont redevenus ce qu'ils étaient, 2%. Mais 10%, si vous voulez, des élites. Qu'est-ce que c'est qu'un protestant sous Jules Ferry ? Vous allez voir, c'est un génie historique. C'est comme ça, ils y sont pour rien. Un protestant, c'est un chrétien républicain. Il n'a pas besoin de se rallier. Vous savez, le ralliement. Les catholiques, pour devenir républicains, ils ont dû faire, excusez-moi de le dire, hein, il y a des catholiques dans la salle.
Quelques-uns.
Mais ce n'est pas le protestant qui parle, c'est l'historien. On a inventé le mot, vous savez, le ralliement, lorsque le tos d'Alger de la Vigerie, lorsqu'il a dit aux catholiques, mais n'ayez pas peur, devenez républicains. Bon, très bien, ils se sont ralliés. Mais justement, ils ont dû faire un effort. Ce n'était pas naturel. Les protestants, ça a été souvent une accusation jetée contre eux, Louis XIV. Les protestants, c'est comme Obélix, si j'ose dire, hein, qui n'est pas une personnalité d'ailleurs huguenote, Obélix. Les protestants, ils sont tombés dans le chaudron de la démocratie, de la laïcité. Il y a des phrases merveilleuses de Tocqueville, hein, qui dit « Les gens qui avaient déjà la démocratie dans le ciel, c'était naturel qu'il installe ici-bas, voyez. Mais quand vous avez une hiérarchie dans le ciel, eh bien, ici-bas, vous avez la monarchie. Hein. Et donc, vous avez à ce moment-là de vrais chrétiens, des pasteurs, etc., qui croient en Dieu, mais qui sont naturellement, nativement, républicains, démocrates et laïcs. Et de l'autre côté, je prends les protestants de l'autre côté, ce sont des laïcs, des militants, c'est eux qui ont fait l'école laïque. Hein. Vous savez, Jules Ferry, c'est le ministre, mais derrière le ministre, il y a les directeurs de l'enseignement. Et le célèbre Ferdinand Buisson, hein, qui a été 16 ans, qui est un ancien théologien protestant, qui a été 16 ans, le vrai chef d'orchestre de l'armée des hussards noirs. Hein. Jules Ferry était parti depuis longtemps du pouvoir, que Ferdinand Buisson était là à vraiment administrer au jour le jour cette armée de hussards noirs. De profs d'école normale, etc. Et bien, ces laïcs, ces vrais laïcs, ils étaient aussi en même temps chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ne confondaient pas laïcité et anticléricalisme primaire et agressif. Ils se posaient, comme on dirait aujourd'hui, ils étaient capables de se poser la question du sens. Félix Pécaud, là, qui était un basque, non, pardon, excusez-moi, pardon, je suis navré, un béarnais. Un Bernet, mais que ses parents avaient envoyé en mission. Il avait placé gamin dans une école du Pays Basque pour qu'il apprenne le basque et qu'ensuite il convertisse les Basques au protestantisme. Ça n'a pas marché, mais bon. Eh bien, Félix Pecaud, pasteur protestant, directeur, premier directeur pendant 20 ans de l'école normale supérieure de jeunes filles de Fontenay-aux-Roses, la centrale qui a envoyé ses missionnaires laïcs former les institutrices dans tous nos départements. Félix Pecaud a écrit « Un peuple ne vit pas que de pain et de statistiques du commerce extérieur. Un peuple vit aussi de la question du sens, la vie, la mort, etc. » Et ça, un catholique ne pouvait pas le dire à l'époque. S'il le disait, il n'était pas audible par la majorité laïque républicaine. Seul un protestant pouvait oser le dire. Et donc, vous aviez une minorité, mais qui était à la jointure et qui a été capable d'infléchir le sens, le cours du destin national. Ça a été la République laïque. Et une dernière chose, sous le général de Gaulle, moi j'ai un peu découvert pour ce livre quelqu'un que je connaissais très bien par ailleurs, mais que je connaissais, si j'ose dire, au champ, au désert, et dont j'ai découvert le rôle à la ville. C'est Jean Carbonnier. Je ne sais pas si vous le connaissez, Jean Carbonnier, c'était le patron du musée du désert, mais ça a été aussi le président de la fac de droit d'Assas, l'auteur d'un manuel de droit... J'ai jamais fait de droit. Hein.
De la famille.
Droit, oui, alors ça peut être le droit, qu'est-ce que c'est la famille, le droit civil,
civil. Le droit civil. Oui, grand civiliste.
Voilà, son manuel doit en être à la 38e édition, c'est la Bible, pour le coup, oui. De génération de juristes. Et Jean Carbonnier, je crois qu'on a même forgé à son propos, il me semble, il y a des livres entiers maintenant sur lui, l'expression de jurislateur, c'est-à-dire l'homme qui écrit les projets de textes de loi pour la puissance publique, pour les ministres. Et si vous regardez en détail, j'ai plus en tête la liste des choses, mais dans les années 60, lorsque de Gaulle a voulu moderniser la famille française, les rapports entre les enfants et les parents, le rapport entre l'homme et la femme dans le couple, eh bien cette modification, c'est pas la révolution ça, mais ça a changé, vous le savez, c'est pas non plus des manifs féministes, mais ça a changé en profondeur la cellule de base, qui est la cellule familiale. Lorsque, vous savez que enfin, vous le savez tous, longtemps, il y a eu un chef de famille, c'était l'homme. Maintenant, il y a l'autorité parentale qui est partagée à égalité entre l'homme et la femme. Eh bien, l'homme qui a écrit ces textes, qui a modernisé le droit en profondeur et sans faire de bruit, c'est ce juriste protestant. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'il a lui-même écrit des textes où il réfléchit sur le rapport en lui entre son identité protestante. C'est un homme, vous savez, de Libourne, Jean Carbonnier. C'est un Libournais. Et par ailleurs, c'est un converti au protestantisme. Il a écrit des textes sur le rapport entre son identité et sa foi protestante et son désir de moderniser une société. Il a même dit « La France est une société catholique. Elle est fondamentalement catholique dans sa culture, dans son génie. On ne peut pas en faire une société scandinave du jour au lendemain. Ça ne marchera pas. Donc il faut modifier en douceur les choses. » Et c'est ce travail-là, de, sans jouer sur les mots, de réforme de l'esprit national, qu'à un moment aussi, cet homme qui était minoritaire protestant a su faire en liaison avec les gardes des sceaux successifs qui l'ont utilisé.
Une dernière question. Vous dites, tout à fait à la fin, alors, puisqu'on a parlé de l'introduction et puis de la conclusion, vous dites, ça fait partie des phrases finales, c'est même la phrase finale, vous écrivez « L'histoire des Huguenots est pratiquement close, l'aventure des protestants en France, même, n'a jamais été aussi vivante, riche et diversifiée. » Alors cette formule, j'imagine qu'elle est tout à fait énigmatique pour beaucoup des personnes qui sont dans ce public. Est-ce que vous pouvez vous en expliquer en quoi les Huguenots, à quoi assistons-nous à la fin des Huguenots et en quoi l'avenir du protestantisme est-il largement ouvert ?
D'accord. Habile, Séverine. Hein. Elle a commencé par la première phrase du livre, elle termine par la dernière.
Mais j'ai lu le milieu. Hein.
Fallait... On avait plaisanté. Elle a mis des fiches pour me faire croire qu'elle avait lu le milieu. Mais c'est très habile, Séverine. Et c'est, rhétoriquement, ça marche, quoi. Bon, on m'a reproché. Hein, on m'a reproché amèrement d'avoir dit qu'il n'y a plus que 0,5% de Huguenots en France, alors qu'il y a 3-4% de protestants. Bon, c'est jouer sur les mots, mais c'est pas jouer sur les mots. Derrière les mots, il y a vraiment des gens très différents. Les Huguenots, seuls les Huguenots savent ce que sont les Huguenots. C'est vrai que le grand public ne sait peut-être pas... Vous savez ce que c'est que la croix huguenote ? À Toulouse, ils croient que c'est la croix occitane, ils sont gentils, mais ce n'est pas la croix occitane, la croix huguenote. Bon, c'est la croix de Malte avec la colombe du Saint-Esprit. Les huguenots, ce sont donc, en justesse de terme, les seuls protestants calvinistes français qui se sont formés depuis le XVIe siècle. Et du reste, Jean Bobéro avait cette formule, je trouve assez belle. Il avait écrit un livre, « Le protestantisme doit-il mourir ?» il y a maintenant 20 ans. Et Jean Bobéro avait écrit dans ce livre, c'était sa phrase de conclusion, il avait dit « Dans un siècle, il n'y aura pratiquement plus en France comme protestants que des gitans. » Parce que vous savez, il y a 100 000 gitans convertis en fait au protestantisme évangélique. Et aujourd'hui, Jean dit, non, je me suis totalement trompé, dans un siècle, il n'y aura pas que les gitans, il y aura les Antillais, les Africains, les Coréens, les Chinois, peut-être un certain nombre de Maghrébins qui seront protestants par conversion évangélique. Alors les huguenots, et Jean dit, il y a eu en France quasiment jusqu'à ma génération, hein, je sais de quoi je parle, je suis le premier de ma génération, enfin ma génération a été la première à sortir de ça, c'est qu'il appelle un protestantisme, ne soyez pas choqués, ethnique. Ça veut dire que, c'est tout bête à dire, hein, mais ça veut dire que les protestants, c'est comme ça, je peux vous le garantir, peut-être pas dans les villes où ils sont très disséminés, mais dans les régions de protestantisme, je dirais fortement installées, Poitou, le Tarn, les Cévennes, le Dauphiné, etc., les protestants ne se sont mariés qu'entre protestants du XVIe siècle aux années 1980. Tous, hein. Mais ils en faisaient pas. C'était pas une règle, c'était comme ça, quoi. Les couples mixtes, j'adore cette expression, les couples mixtes, parce que c'est une expression qui retrouve une autre actualité aujourd'hui. Hein. Les mariages mixtes aujourd'hui, ça prend un autre sens. Eh bien, les couples mixtes, on peut dans mes Cévennes d'origine, on peut vous en donner la liste sur le doigt d'une main, encore aujourd'hui. Hein. Dans les villes, ça se multiplie. Et donc, voyez, les huguenots, ce sont non seulement, c'est donc la minorité calviniste strict, et c'est souvent une minorité qui est littéralement ethnologique, hein, qui vient du 16e. Celle-là, elle est effectivement à l'étiage, y compris, il faut être clair, hein, y compris parce que les mariages mixtes, qui sont aujourd'hui la norme généralisée, hein, les derniers protestants qui se marient entre eux, de mon temps, et de la ceux qui ont une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, je pense, entre nous soit dit, je blessais personne, je pense que ce sont les derniers qui se marient entre eux, ce sont ceux qui appartiennent à ce qu'il est convenu d'appeler la HSP, la Haute Société Protestante. Parce que pour se marier entre protestants, encore faut-il vivre dans une sociabilité où il y a beaucoup de protestants. Je vous donne un conseil, hein, plutôt mettre ses enfants à l'école alsacienne à Paris. Les maîtres scoutisme, hein. Ah oui, les maîtres scoutisme, école alsacienne, organiser quelques rallyes. Je parle en ethnologue parce que c'est absolument pas mon univers, si vous imaginez à quel point c'est pas mon univers. Voilà, mais sinon, c'est terminé. Et le mariage mixte, on a parlé tout à l'heure de mémoire, le mariage mixte, il met en péril, c'est comme ça, les Juifs font la même question avec les mariages mixtes chez eux, il met en péril la transmission, c'est-à-dire que les enfants issus d'un couple mixte n'ont pas le même rapport plein, entier, gorgé de mémoire à la tradition protestante. Hein. Et puis, évidemment, comme les mariages mixtes ne cessent de s'enchaîner, il y a de vrais phénomènes de déperdition statistique. Hein. Voilà. En revanche, les protestants en général, eux, n'ont jamais été aussi nombreux, aussi conquérants, aussi dynamiques. Mais dans ces protestants en général, il y a plusieurs familles. Dans la grande famille protestante, il y a donc les huguenots. Il y a aussi les luthériens, nous sommes d'accord, dont je n'ai pas beaucoup parlé dans ce livre, sauf pour le 19e siècle et pour, bien sûr, vanter la réussite industrielle protestante française. Elle est très largement une réussite luthérienne. Hein. Ce sont les protestants d'Alsace qui ont fait une partie de l'industrie française. Alors, soit ce sont des luthériens, que je ne dise pas de bêtises, soit ce sont des luthériens d'Alsace, tous les brasseurs de bière, tous, ils étaient protestants. Donc les luthériens d'Alsace, que je ne dise pas de bêtises, les luthériens de Montbéliard, mais les calvinistes de Mulhouse. Voilà, à Mulhouse, on est calviniste, mais on est génialement doué pour l'industrie. Les calvinistes de Mulhouse, c'est les Hubert, les Quéclin, les Dolphus, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, enfin des gens qui ont... vous savez, le DMC, là, c'était une marque...
Coton à broder.
J'allais dire, mesdames, aidez-moi.
Coton DMC. À broder.
Voilà,
coton
merci Séverine. Très bien. Donc, il y a les luthériens. Les luthériens et les huguenots, d'ailleurs, se sentent aujourd'hui tellement dépassés par la conquête des évangéliques, dont je vais dire un mot et terminer là-dessus, que vous le savez, sans doute pour certains, l'année prochaine, en 2013, les luthériens et les calvinistes, les réformés, hein, c'est le vrai nom, vont se réunir, c'est la première fois depuis Luther et Calvin. Ils vont se réunir dans une seule église qui va s'appeler l'Église protestante unie de France. C'est une révolution, ça ne s'est pas vu depuis 5 siècles. Et ces réunions, il n'y a pas de secret, elles interviennent parce que les deux églises, luthérienne et réformée, se sentent un peu en perte de vitesse en France, non pas face à la sécularisation grandissante, qui est aussi une réalité, mais face à la conquête irrésistible des évangéliques. Hein. Et quand je parle de dynamisme protestant, il s'agit évidemment, vous le savez, ce monde extraordinairement foisonnant que les Français connaissent mal. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, ont tendance à les appeler les évangélistes, alors qu'il faut dire les évangéliques. C'est enregistré, c'est très bien. Les évangéliques, les évangélistes, ce sont ceux de la Bible, ou ce sont, c'est une forme de pasteur, un évangéliste. Mais il faut parler des évangéliques, et dans ces évangéliques, vous avez des églises qui ont maintenant des siècles, hein, les méthodistes, les pentecôtistes, les baptistes, et puis vous avez les évangéliques à l'américaine, Billy Graham, tout ce monde-là. Et voilà, les protestants aujourd'hui, c'est un monde extrêmement divers. Quelquefois, ils sont aux antipodes les uns des autres, hein, qu'il s'agisse par exemple de l'attitude face à des questions comme le mariage homosexuel. Vous pourrez entendre entre un pasteur évangélique et un pasteur réformé libéral, vous entendrez à peu près le jour et la nuit dans les prises de position. Ils ont des prises de position aussi extrêmement différentes sur le plan politique, mais on observe depuis quelques années des formes de rapprochement. Les évangéliques commencent à s'intéresser à l'histoire du protestantisme, qui est une sorte pour eux d'invention d'identité, et on s'aperçoit que les églises réformées sont capables elles aussi de conquérir, de convertir. D'ailleurs, un nombre grandissant de pasteurs de l'Église réformée de France sont déconvertis du catholicisme, ou je dirais de cette sorte de banalité française d'aujourd'hui où les gens disent « moi je suis rien ». Ça veut dire qu'ils ont 2000 ans de catholicisme dur derrière eux, mais ils ne veulent plus le reconnaître. Quand on est de tradition protestante ou juive, on comprend qu'ils n'ont pas la même histoire, même s'ils ne le voient pas. Voilà pourquoi les Huguenots, c'est l'étiage, mais vous l'avez compris, c'est un roc inoxydable. Comme le granit, le fier granit de nos Cévennes. Ça, c'est une allusion privée.
Une réappropriation de la mémoire.
La Cévenole. Voilà.
Merci pour tout ce qui a été dit et merci surtout pour ce superbe ouvrage.